Isabelle Hénos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la gestion chez BE Capital. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Comment vous envisagez la situation actuelle avec la Grèce, puis l'Espagne, avec cette inquiétude de la plupart des investisseurs, en tout cas quand on leur parle de la zone euro? Quel est un peu le regard que vous portez aujourd'hui?
De la prudence tout d'abord, parce qu'effectivement, on a de nouveau cette problématique de la dette qu'on avait laissée un petit peu de côté qui revient sur le devant de la scène. Des questions de sortie de la zone euro, notamment pour la Grèce, c'était des questions qu'on n'imaginait pas. Donc obligatoirement, on est obligé de prendre en compte ces paramètres dans notre grille d'investissement et dans notre grille de lecture du marché. Et puis la résurgence du problème aussi en Espagne avec cette question immobilière qui domine quand même l'actualité. Donc effectivement, ça vient énormément peser sur l'environnement économique et on voit qu'il y a aujourd'hui, une Europe à deux vitesses, l'Europe du Nord, qui finalement s'en sort bien et qui arrive à générer encore de la croissance, et l'Europe du Sud qui n'arrive pas à sortir de ses problèmes de dette et qui aujourd'hui est confrontée à des problématiques particulières qui de nouveau secouent un petit peu le système financier. Donc la France est un petit peu intermédiaire par rapport à tout ça. On ne peut pas exclure ces problématiques dans les choix d'investissement qu'on fait aujourd'hui. Donc l'Europe est là à part entière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos allocations, ça nous pousse à aller chercher un petit peu plus de diversification internationale, notamment au travers des États-Unis et au travers des pays émergents.
Alors, on peut aussi se dire qu'on avait commencé l'année de manière presque euphorique, mais après une fin d'année dernière difficile, on retrouve un peu le scénario de 2011 finalement. On était parti assez vite, en tout cas les investisseurs avaient acheté assez vite le marché, puis il y avait eu la Grèce au mois d'août. Ben là, la Grèce est arrivée un peu plus vite, mais on pourrait dire toujours les mêmes sujets.
Toujours le même sujet, les mêmes dessins d'évolution des marchés. On voit un coup d'arrêt à partir du mois de mars-avril. Alors pour des raisons différentes, c'est vrai que le premier coup d'arrêt l'année dernière, c'était surtout au moment du tremblement de terre au Japon et puis après, effectivement, avec le deuxième plan d'aide qui s'est profilé pour la Grèce. Mais on voit que quand même les autorités ont du mal à régler ce problème de dette. On a des solutions qui ont du mal à trouver, enfin, on a du mal à trouver des solutions concrètes. Puis au-delà du problème économique, on voit que c'est vraiment le problème politique maintenant qui domine. Donc effectivement, des États qui ont trouvé des solutions ponctuelles, beaucoup d'alternances politiques qui sont venues aussi ajouter un petit peu d'actualité à tout ça. C'est vrai qu'en Grèce, maintenant, c'est la question de savoir ce que les autorités vont faire pour pouvoir mener à bien ces plans de réforme qui sont absolument nécessaires. Bon, ça crée quand même beaucoup de tensions. Et tant qu'on n'aura pas, aujourd'hui, on ne repartira pas sur un schéma qui sera politique d'austérité ménagée avec une croissance pour trouver des recettes budgétaires, ça viendra encore peser pendant un certain temps. On sait que la problématique de la dette, de toute façon, ce n'est pas une problématique qui sera réglée du jour au lendemain. Maintenant, il faut prendre un chemin et puis prendre les bonnes décisions qui vont dans ce sens-là. On voit qu'en Italie et en Espagne, il y avait quand même de vrais actes politiques qui avaient été mis en place. Maintenant, il faut qu'ils portent leurs fruits, mais il faut leur laisser le temps pour ça.
Alors, du côté de diversification, vous parlez des États-Unis. On avait vu des chiffres effectivement plus favorables aux États-Unis. Et puis, il y a aussi des inquiétudes tout de même, à savoir est-ce que cette croissance américaine va pouvoir tenir. Dans le contexte, d'ailleurs, on a vu au G8 le président Obama parler de la croissance avec les Européens et voulant de la croissance en Europe, en quelque sorte.
Et quelque part, aujourd'hui, on voit qu'on a besoin, nous, de ces relais de croissance ailleurs. Mais, je dirais, la surface financière, enfin, la sphère financière internationale a besoin de tous les pans pour pouvoir s'appuyer. Donc, les États-Unis aussi ont besoin d'une Europe un peu sur de meilleurs rails pour pouvoir assurer une croissance pérenne. Alors aujourd'hui, effectivement, on y est mieux. On a une croissance qui a redémarré, même si on est sur un niveau de croissance qui est quand même assez modéré. On est autour de 2,2% pour 2012. Ça reste modéré. Maintenant, ce qui est intéressant du côté américain, c'est que ce sont tous les pans de l'économie qui s'améliorent. On l'avait vu avec la consommation qui est quand même très importante dans le PIB. L'investissement, même s'il y a des soubresauts, c'est quand même mieux que ce qu'on avait pu connaître en tous les cas sur l'exercice 2011. On voit que sur le front de l'emploi, il y a une amélioration. C'est pas un flux continu. Il va y avoir des soubresauts, on le sait, mais il y a quand même une tendance qui a été à l'amélioration avec un taux de chômage qui est passé de 9 à 8%. Et puis sur le front de l'immobilier, on a l'impression qu'on a une amélioration, alors qui est très sensible, mais on voit quand même qu'on a des stocks qui commencent à se stabiliser, que ce soit du côté de l'ancien ou que ce soit dans les logements neufs. Donc ça, c'est un signe favorable. Et que ce soit l'emploi ou que ce soit l'immobilier, c'était les deux vecteurs qui étaient attendus du côté américain pour stabiliser la croissance.
Alors, on disait que les États-Unis États-Unis avaient besoin de la croissance de la zone euro, on pourrait dire de la même chose de la Chine. Forcément, là aussi, on a vu, on a commencé à avoir des inquiétudes sur cette croissance chinoise. Et quand on a vu, par exemple, certains ont dit, regardez la production d'électricité, plus 0,7% et 8% de croissance. Donc il y a un problème quelque part sur cette croissance chinoise.
Oui, alors il y a beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vrai que si on regarde sur les dernières années, on a un taux qui s'est affaibli. On était à plus de 10% en 2010, un peu plus de 9% en 2011. On parle de 8,1% sur 2012. Donc effectivement, il y a un ralentissement de la croissance chinoise. Maintenant, beaucoup de pays en Occident aimeraient beaucoup avoir ces niveaux de croissance aujourd'hui, qui sont plutôt des niveaux de croissance honorables. Et puis en plus, la contribution de l'économie chinoise à l'économie mondiale n'a fait que s'accroître ces dernières années. Donc effectivement, même si le taux de croissance diminue, et il reste quand même très fort, mais même s'il ralentit quelque peu, la pondération de l'économie chinoise dans l'économie mondiale n'a fait que s'accroître sur les dernières années. Donc ça permet de relativiser aussi. Et puis en plus, face à ça, on a quand même des autorités chinoises qui ont des marges de manœuvre que nous n'avons plus malheureusement en Europe, que ce soit du côté monétaire, parce qu'ils ont réussi à bien canaliser l'inflation. Donc aujourd'hui, ils peuvent avoir un levier sur les taux, même s'il n'est pas si important, il y a quand même un levier de ce côté-là. Et puis on voit qu'on a des rumeurs de plans de relance, ça a été le cas ces derniers jours, qui pourraient être mis en place. Et on l'a vu en 2008, les autorités chinoises, quand ils mettent des plans de relance en place, c'est des plans de relance de très grande ampleur. Aujourd'hui, la grande clé de l'économie chinoise, c'est d'avoir un relais sur la consommation intérieure. Ils ont beaucoup canalisé leur croissance, enfin en tous les cas emmené leur croissance sur les exportations et la consommation extérieure. Aujourd'hui, on sait qu'il faudra un relais au niveau de la consommation intérieure. Si plan de relance il doit y avoir en Chine, quelque part, il y a de grandes chances qu'il se fasse du côté des biens de consommation ou des plans de relance au niveau d'automobile, en tous les cas, canalisés sur la demande intérieure.
Alors, pour l'investisseur, ce n'est pas facile en ce moment. Quand on voit que des émissions d'obligations en Allemagne, à 2 ans, sont proposées à 0%, on voit bien qu'on arrive un peu au bout du bout, c'est-à-dire quel type d'actifs on peut aller trouver. Alors, certains parlent encore des obligations corporelles, d'un certain type d'obligations, mais on voit bien là qu'on est dans un marché où c'est difficile de trouver les bons actifs. Peut-être en conclusion, quelle stratégie à mettre en place dans une période aussi, on va dire, difficile ou peu visible?
On a beaucoup regardé le marché obligataire sur les dernières années. Aujourd'hui, on est sur un marché obligataire un peu paradoxal puisqu'on se retrouve avec des taux très élevés pour certains pays, hein, et c'est justifié par les questions qu'on peut se poser. Et puis, des niveaux de rémunération qui sont en réel négatifs sur des pays comme l'Allemagne. Donc, on a quand même un écart très important sur le marché obligataire. Nous, ça nous pousse aujourd'hui à s'écarter alors de la dette d'État, mais également aujourd'hui des corporations. Parce qu'on voit que les entreprises émettent, on a eu le cas de GDF Suez il n'y a pas très longtemps, émettent sur des niveaux sur des durées de 6 à 7 ans, sur des niveaux très faibles, à peine 3%, autour de 3-3,5%, ce qui est quand même très très faible sur des durées aussi importantes que ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé sur un marché obligataire, même corporate, qui est beaucoup moins intéressant qu'il l'a été. Donc ça nous pousse à le laisser un petit peu de côté et à le surveiller pour retrouver des opportunités peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir, en fonction de l'évolution du marché. Et sur le côté obligataire, on se focalise un petit peu plus sur le développement des fonds à échéance. On en a vu beaucoup qui rapportent sur des durées de 3-4 ans avec un risque plus ou moins pondéré, des rémunérations qui sont plus importantes, de l'ordre de 5-6%. On continue à aller un peu vers le high yield. Et puis on continue également à aller chercher du court terme, mais du crédit, mais du côté des États-Unis, pour là aussi bénéficier un petit peu de la devise aussi et de la montée du dollar. Parce que si les inquiétudes qu'on a aujourd'hui en euro perdurent, le dollar devrait continuer à progresser dans les mois à venir. Et puis du côté du marché des actions, cette diversification à l'international, mais également sur des grandes valeurs européennes qui vont chercher leur croissance ailleurs. On le voit dans le CAC 40 aujourd'hui, les grandes sociétés font finalement plus de la moitié de leurs résultats ailleurs, en tous les cas sur des zones plus dynamiques. Donc cette diversification est intéressante. Et aujourd'hui, sur de grandes sociétés, on voit qu'il y a des dividendes qui sont versés, qui sont quand même très importants, de l'ordre de 6, 7, 8%. On n'ira pas chercher une société ou une action pour son dividende, mais si, en plus de sa stratégie et de sa valorisation, de sa stratégie, de ses perspectives de croissance, elle offre un dividende intéressant, on ne se refusera pas de l'avoir.
Merci d'avoir fait le point avec nous sur ces marchés, Isabelle Hénaud. Sans rappel, vous êtes donc directeur adjoint chez B Capital.